7h25. À compter de lundi, on peut dire que le Québec va entrer dans cette deuxième phase importante de la campagne de vaccination, puisque vous pourrez modifier la date du rendez-vous pour cette deuxième dose. Alors, les gens de 80 ans lundi, 75 ans et plus à partir de mardi, et on va descendre comme ça jusqu'au 23 juin, ce qui fait que les Québécois seront vaccinés plus tôt. On va faire le point donc sur cette campagne avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcand.
Est-ce que avec ces changements-là et la gestion là, des déplacements de rendez-vous, vous êtes en mesure de nous dire à quel moment les Québécois auront à 75 % reçu leur deuxième dose?
Le 31 août. Je vous dis, c'est ça qu'on vise. Jusqu'à date, on a toujours respecté nos objectifs. Puis je prends juste peut-être quelques secondes avant vos autres questions, M. Arcand, juste de dire, si on a été capable de réussir la première campagne, comme vous l'appelez, c'est parce que les Québécois ont été au rendez-vous. Puis je pense qu'il faut leur dire merci, parce qu'on en a demandé beaucoup aux Québécois dans la dernière année. Alors oui, ils ont bien répondu, puis c'est à cause d'eux qu'on a ce beau succès-là. Donc, si les Québécois répondent aussi bien pour la deuxième dose, qui est très importante, effectivement, fin d'août, on va être capable de faire la même chose puis d'avoir notre 75.
OK. Ce que je comprends, c'est quand je vais changer ma date, quand j'aurai confirmé le changement, mon premier rendez-vous va s'annuler.
Oui, effectivement. Puis une des raisons, la principale raison pour laquelle on peut bouger à peu près 3 millions de rendez-vous, là, c'est parce qu'on a eu des vaccins supplémentaires qu'on ne prévoyait pas recevoir aussitôt. Donc maintenant, en juin, en juillet, on est capable d'avancer des rendez-vous parce qu'on a plus de vaccins.
J'allais vous dire, on a souvent éprouvé des problèmes majeurs d'informatique, de logistique en santé. J'espère que vous allez embaucher à temps plein ceux qui opèrent Clic Santé, qui vont avoir tous les contrats sans appel d'offres.
Ben écoutez, on peut leur dire bravo à Clic Santé. Je pense que les gens sont fiers là, que c'est une entreprise québécoise qu'on a pu mettre de l'avant qui sont débrouillés là, parce qu'il y a eu plusieurs changements durant la pandémie aussi. Hein. Vous vous souvenez comment c'était il y a plusieurs catégories d'âge. Et on avait des catégories de différents types de maladies au début qu'il fallait faire. Donc oui, effectivement, c'est encourageant de voir quand on donne la chance à des entreprises québécoises de performer. Ils ont un beau défi là, de changer 3 millions de rendez-vous dans les prochaines semaines. Ça aussi, c'est un beau défi technique. Et je pense que notre réseau de la santé a montré une super belle agilité à travailler avec le privé. Ça aussi, c'est important parce que moi, j'ai toujours dit que le ministère est là pour donner les grandes stratégies, les grandes orientations, mais souvent, dans l'exécution, on est peut-être mieux de s'appuyer sur le privé qui vient compléter le réseau. C'est ce qu'on voit avec des groupes comme... puis aussi nos entreprises qui sont venues nous aider dans la vaccination, les pharmaciens. Cette complémentarité des deux nous a permis, je pense, d'être beaucoup plus agiles puis d'aller vraiment plus rapidement.
Je vous parle évidemment de santé publique. C'est un incontournable. Le directeur, Dr Arruda, dit qu'il refait avec ses équipes la réflexion, les calculs. Vous avez le Dr Alain Poirier de la santé publique qui dit qu'on aurait dû faire preuve d'un peu plus d'imagination puis de faire en sorte que les étudiants puissent avoir un bal avec des normes et tout ça. Là. J'ai l'impression, M. Dubé, qu'il y a une partie de ping-pong entre la santé publique puis le politique. Là, qu'il y a une, disons que les politiciens aimeraient bien qu'on puisse organiser le bal, mais que la santé publique résiste.
Mais regardez, c'est toujours une question de prudence. Hein. Je vous apprendrai bien ce matin là, qu'à chacune des pistes, particulièrement des grands points difficiles, on avait toujours une discussion avec la santé publique parce que des fois, ils veulent un certain niveau de prudence. Puis c'est leur rôle hein, de nous faire penser justement comment on minimise les contacts. On ne reviendra pas là-dessus, tout le monde le comprend bien. Dans le cas des balles, je pense que puis c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont accepté qu'on revise un peu la décision, c'est que là, c'est vrai que ça va bien. On veut continuer d'être prudent, mais il faut se voir dans 3 semaines. Puis dans 3 semaines, fin juin, il est peut-être possible d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, mais tout en étant prudent. Alors, ce qu'on leur a demandé, c'est de dire à quelles conditions on pourrait avoir un minimum de réjouissance pour nos jeunes qui l'ont vraiment mérité. Alors, je pense que le docteur Arruda, là, il sent beaucoup la pression. On va le laisser travailler avec son équipe, mais je suis certain qu'ils vont trouver une solution là, qui va être accommodante. Mais pour nous, on va attendre que la santé publique nous fasse cette recommandation-là. Mais ils sont en train de travailler là-dessus, puis ils n'ont pas n'a pas grand temps non plus, là, parce qu'il faut se décider pour que les écoles, le réseau scolaire puissent s'ajuster, les parents puissent s'ajuster et que les jeunes filles, les jeunes hommes se préparent à se mettre sur leur 36, comme on disait dans mon temps, moi. Alors, on va donner le temps au docteur Arruda dans les prochains jours.
OK, mais ce que je comprends, c'est que la question, c'est pas « as-tu un bal ou pas? » La question, c'est « il va y avoir un bal » puis le docteur Arruda est en train de fixer les paramètres du bal.
Bien, en fait, ce qu'on dit, M. Arcan, là, c'est qu'il nous a dit il y a le bal lui-même. Ce qui nous préoccupe beaucoup aussi, c'est l'après-bal. Ça ne changera pas. Là, vous avez eu un bal de graduation, moi aussi. Je pense qu'il est important là, de laisser le docteur Arruda nous dire dans chacune des étapes de la soirée où il faut faire attention, puis dans quelles circonstances est-ce qu'on pourrait avoir des bals à l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire avec les écoles. Mais je vous dirais, M. Arcan, là, ce qui est important en ce moment pour nous, c'est de les vacciner, les jeunes. Tu comprends, là? Puis plus vite on va les vacciner, plus vite les événements, comme les bals de graduation, mais tout ce qui va se produire cet été, des vacances, des meilleures vacances, un retour à l'école, je reviens, là. Moi, je suis déjà dans ma deuxième campagne. Je veux vraiment que nos jeunes viennent se faire vacciner. Premièrement, ceux qui n'ont pas reçu leur première dose, parce que là, on en a, là. On est en train de vacciner 600 000 personnes qui n'ont pas encore eu leur première dose. Ça, c'est nos doses 17. Puis en fait, c'est ceux-là là, qui veulent aller au bal, en gros. Là. Alors, il faut les vacciner. Et lorsqu'on les aura vaccinés, ben, on pourra préparer ce qu'on fera cet automne pour leur retour. Mais oui, on va trouver une solution pour ce qu'on appelle les bals. Mais entre-temps, j'aimerais ça que particulièrement les jeunes Québécois viennent se faire vacciner.
Mais en tout cas, il y a une volonté des parents, c'est clair. Là. Il y a un sondage qui montre que quoi, c'est 72-75 % des parents qui ont l'intention que leurs enfants soient vaccinés.
C'est vrai, puis vous avez tellement raison, puis c'est pour ça, regardez, le premier ministre, là, il s'est rajusté souvent, hein, quand on écoute la population, puis là, on a entendu, et là, ce que j'ai trouvé beau, vous avez raison de le rappeler, les parents ont dit, on veut participer parce qu'on veut aider nos enfants à trouver la bonne façon. Alors, il y a cette combinaison-là avec les parents qu'on va trouver. On va laisser le docteur Arruda là, nous trouver une solution.
Est-ce que, par exemple, puis je regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde quand on organise, disons, des rassemblements, en tout cas des événements avec une certaine foule, on utilise en quantité les fameux tests rapides. Ça ne peut pas faire partie d'un certain protocole, ça, pour organiser un bal, qu'on teste?
Oui, en fait, du côté des... c'est un débat, le test rapide, là. On a quand même beaucoup... évoluer là-dessus, mais il faut faire attention, puis on pourra en reparler, parce que je vais revenir dans les prochains jours avec la preuve vaccinale. Je me suis engagé à trouver une solution pour ça aussi, mais le test rapide, c'est quelque chose qui est complémentaire au test. Le test rapide ne remplace pas une mesure sanitaire. Vous me suivez? Alors, les mesures sanitaires, c'est la distanciation, les gens les connaissent, oui. Le masque, etc. Mais le test rapide ne peut pas remplacer une mesure sanitaire. Alors, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'il faut être capable de dire, écoutez, là, je vous donne l'exemple, est-ce que vous avez été doublement vacciné? La réponse, c'est oui. Mais là, à ce moment-là, on peut laisser tomber certaines mesures sanitaires. Et si jamais ce n'est pas le cas, bien là, est-ce qu'on pourrait faire des tests rapides pour laisser rentrer des gens? La réponse, c'est oui. Mais le test rapide, il faut faire attention, il est encore plus facile à utiliser lorsqu'il y a des éclosions. Alors, c'est un débat là, qu'on va continuer de regarder. La santé publique nous a permis d'évoluer là-dedans, parce que maintenant, les tests rapides sont disponibles dans les entreprises. Il reste encore des enjeux à régler. Est-ce qu'on peut le faire avec du personnel infirmier ou avec d'autres personnels? C'est ça le débat qui nous reste à régler. Mais on avance aussi dans les tests rapides.
Je veux vous parler des patients non-COVID, parce que c'est une préoccupation, le retour à une certaine normalité. Il y a eu donc du délestage, les listes d'attente ont continué évidemment de prendre du volume. Le personnel est épuisé, ils n'ont pas eu de vacances l'été passé. Vous avez dit clairement que cet été, les gens vont pouvoir se reposer, il n'est pas question d'en ajouter. Avez-vous un plan précis pour augmenter la cadence en chirurgie? Un plan précis là, de, comme on dit, retrouver la priorité de soigner nos patients non-COVID au Québec, les opérer le plus vite possible?
Oui. La réponse, c'est oui. Je vais vous tenter de résumer ça rapidement. Le plus important pour moi, c'était de stabiliser ce qu'on appelle nos opérations, là, d'arrêter d'augmenter le délestage. On l'a vu là, avec la baisse des cas. À toutes les semaines, on améliore notre taux d'opération. On va se rapprocher, j'espère, là, au mois de septembre d'être au moins à 100 %. Puis avec les cliniques privées qu'on utilise, on va être à 110-115 %. Et c'est là qu'on peut commencer à faire du rattrapage. Ce que je fais cet été, avec tous mes collègues, mais là, ça implique non seulement les chirurgiens qui ont hâte de traiter leurs patients puis de reprendre le retard, mais aussi on travaille avec les syndicats, avec la FIC. Parce que ça se fera pas, ça, c'est pas juste les chirurgiens qui peuvent dire « j'ai hâte de pratiquer ». Il faut qu'on ait cette collaboration-là avec tout le réseau au complet. Alors, déjà, on est là-dedans avec le docteur Opatoni. Puis j'espère, là, si c'est pas la semaine prochaine, mais c'est avant le départ de la fin juin, on va présenter notre stratégie cet été pour que, à compter de l'automne, on ne sera pas de fausses promesses, cet été, on ne peut pas vraiment baisser la liste en raison des congés. Mais quand on va revenir à l'automne, au mois de septembre, fin d'août, début de septembre, on va avoir un plan très clair pour être capable de faire ce rattrapage-là dans les 12 à 18 mois qui vont suivre la pandémie. Alors, on travaille là-dessus, mais c'est vraiment un travail d'équipe entre les chirurgiens, les infirmières et tout le reste du réseau, parce que ça prend vraiment un travail d'équipe pour faire ça.
Est-ce que vous avez une mise à jour de ce qui se passe à Maisonneuve-Rosemont? Je parlais avec des gens hier, là. On comprend que c'est un hôpital vétuste, mais les blocs opératoires sont quasi dans un certain pavillon, tous fermés. Ça va pas bien à Maisonneuve-Rosemont?
Ben écoutez, je me suis rendu quelques fois là pour aller voir, de, comme on dit, de mes yeux vus, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur place pour bien comprendre. Écoutez, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, il est inscrit dans nos priorités du gouvernement pour être capable de faire des investissements majeurs. On avait besoin de terminer une décision qui est, à mon sens, importante. C'était de savoir, est-ce qu'on reste sur place ou on va dans un nouveau site? J'en profite pour dire que j'ai une rencontre avec le premier ministre cette semaine, là, justement là-dessus. Ça, c'est vendredi après-midi. Alors, on est là-dedans. Là, c'est premièrement de finaliser où on devrait mettre notre argent, dans quel site, parce qu'il y a une grosse différence. On l'a vu avec l'hôpital Saint-Luc versus le CHUM. Est-ce que c'était la bonne chose de rester sur place versus d'aller ailleurs? Il y a ce genre de décision-là qui est très importante en ce moment. Quand on va avoir réglé ça, puis c'est une question qui va se régler dans les prochains mois, après ça, on va mettre le temps nécessaire. Mais c'est sûr que Maisonneuve-Rosemont est une priorité pour notre gouvernement. Puis on va faire ce qu'il faut. C'est un vieil hôpital, ça tient avec de la broche. C'est pas une option que ça reste comme ça.
Alors, là, ça veut dire actuellement qu'il faut faire des ententes avec d'autres centres pour traiter les patients de Maisonneuve-Rosemont.
Oui, puis écoutez, malheureusement, puis on le sait, nos hôpitaux, Maisonneuve-Rosemont est un bel exemple, mais j'ai le même enjeu avec Saint-Jérôme, j'avais le même enjeu avec des hôpitaux sur la rive sud. Écoutez, c'était comme ça un peu partout. On a mis beaucoup d'argent dans nos deux gros flagships, là, le CHUM puis le CUSUM, mais les autres hôpitaux avaient été laissés de côté. Alors, faut faire beaucoup de rattrapage, puis Maisonneuve-Rosemont est un exemple. Mais on va l'adresser. Comme on adresse tous les autres enjeux.
Merci, M. Dubé. Bonne journée.
À vous aussi. Merci.
Au revoir. Christian Dubé est le ministre de la Santé. Avec tout ça, ça nous conduit à 7h39.